Vous écoutez France Culture.
Mais tout de suite sur les docks, présentés par Irène Omelianenko. Bonsoir Irène.
Bonsoir Tara.
Ce soir, vous nous emmenez donc en Belgique, Irène.
Oui, après le Canada et la Suisse, nous posons aujourd'hui la question du français en Belgique. Comme les jours précédents, cette émission se fait en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et les radios francophones publiques, les RFP. Le documentaire, réalisé par Pierre Magos et Baptiste Tupin, va du reste servir de point de départ au débat qui va être mené dès 18h dans le Grain à Moudre par Hervé Gardette, en direct de Bruxelles. Et pour l'instant, nous attend une véritable enquête qui, de Namur à Bruxelles, nous fait passer du français au néerlandais, sans oublier l'anglais et l'allemand. Les chamailleries linguistiques semblent toujours d'actualité. Et pour comprendre la situation, préparez-vous Tara, ainsi que tous nos auditeurs, à remonter au temps héroïque de l'équivalent de notre radio-télévision française en Belgique, l'Institut National de Radiodiffusion, INR en français, NIR en néerlandais.
Sur les docks, c'est donc tout de suite sur France Culture, il est 17h et presque 2 minutes.
Je ne sais pas bien parler de français. De français avec des gens qu'on a nous.
Allô, pick it up then.
On parle le bruxellois, le flamand, le français, l'anglais même parfois.
Nationalité, ik ben Belg.
On parle uniquement belge.
On ne fait pas la distinction ni l'irlandais ni français.
Octobre 1961.
Le phénomène linguistique qui fait qu'en Belgique les uns parlent le français et les autres le flamand, ce phénomène conditionne dans une mesure importante, c'est incontestable, les rapports entre les deux communautés nationales.
L'INR, l'ancêtre de la RTBF, diffuse une émission consacrée aux différents communautaires en Belgique. Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. À l'époque, le Parlement pose les tout premiers jalons de la Belgique fédérale.
Le gouvernement demandera au Parlement de fixer la frontière linguistique.
La frontière linguistique doit partager le pays en régions linguistiques bien délimitées. La région unilingue néerlandophone au nord, la région unilingue francophone au sud, Bruxelles bilingue au centre. Objectif, enterrer la hache de guerre communautaire. Arthur Gilson, ministre de l'Intérieur, est chargé de proposer un tracé de la frontière.
Le rôle du gouvernement est nécessairement de concilier tout le monde. Et on peut dire en certaines circonstances qu'il doit concilier l'inconciliable. Ce n'est pas facile.
50 ans plus tard, rien n'a changé en apparence. Les discours actuels ressemblent à s'y méprendre aux discours de l'époque. En juin 2010, Elio Di Rupo est chargé de former un gouvernement.
Je tiens à dire la vérité aux citoyens. Sur base des résultats électoraux du 13 juin, j'ai été chargé de tenter de concilier l'inconciliable. Nous sommes en effet face à une des situations les plus difficiles de l'histoire de notre pays.
Il faudra plus de 500 jours pour résoudre cette équation et former le gouvernement, la plus longue crise politique de l'histoire du pays. Aujourd'hui, la Belgique en subit encore régulièrement les répliques, les nationalistes flamands ont toujours le vent en poupe, Bart De Wever, le président de la NVA, est l'homme le plus populaire de Flandre.
On voit un pays qui s'est dédoublé en deux démocraties à part entière. Ce n'est pas une conviction, c'est simplement un fait à constater. On doit adapter le pays à cette réalité qui existe déjà.
Reste que la frontière linguistique se traverse. Des Flamands en Wallonie, il y en a et il y en a toujours eu, comme ces francophones qui vivent en Flandre depuis des générations et continuent de s'installer au nord du pays. Alors comment vivent ces minorités linguistiques? Voyage de part et d'autre de la frontière qui sépare flamands et francophones. Première étape, la campagne de Gand, en Flandre orientale.
On y va.
Ça ira pour le jeu?
Oui, ouais, ça sera.
Donc, je suis Thomas, je suis chef de troupe de Sainte-Colette. J'ai commencé en Sainte-Colette en 2010, je pense.
Si j'ai bien compris, c'est aussi une vocation un peu familiale, hein, le scoutisme.
Oui, c'est Sainte-Colette, ce sont les filles, puis à Saint-Georges, les garçons. C'est toute une grande famille, je dirais, francophone de Gand qui se retrouve ici.
Et vous êtes nombreux pour la réunion?
Coucou. Ils viendront, ils viendront.
Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Très bien, ça va.
Vous ciao. Gantoise.
Moi, je suis gantoise, oui.
Pour vous,
oui.
C'est important de mettre votre fille chez les guides en français?
Oui, moi-même, j'ai été chez les guides francophones de Gand. Donc, je connaissais la troupe puisque j'y étais depuis mes 6 ans.
C'est une tradition auquel vous tenez?
Oui, 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 quand même. On veut que cette troupe reste et qu'elle continue à exister pour quelques années.
Parce que vous pensez que ça risque de ne pas être le cas? Il y a des menaces?
Des menaces...
Ou un doute sur la survie d'une troupe comme celle-ci?
Oui, mais ce doute, il y a toujours eu ce doute. Quand moi-même, j'étais chef Tain, etc., il y a toujours eu un peu ce doute.
Moi, j'ai vraiment apprécié ça.
Oui. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans les journées avec les guides comme ça, un samedi après-midi?
En fait, c'est parce que plusieurs filles qui sont ici, on les connaît depuis qu'on a 7 ans, 6 ans. Donc oui, c'est en fait une sorte de deuxième famille.
Et c'est pour vous l'occasion, comme en famille, de parler français?
Oui, mais parfois on parle aussi en néerlandais, mais on essaye de parler le plus en français. Oui.
Qu'est-ce qui est plus facile pour vous, c'est parler français ou néerlandais?
Tous les deux, mais sauf pas écrire en français, ça c'est plus difficile. Mais pour le reste, pour parler, c'est tous les deux bien facile, allez, assez facile.
Parce que vos parents sont tous les deux francophones chaque fois.
Ouais.
Oui, ils parlent néerlandais et français, mais ils viennent d'en Flandre.
Mais à la maison, on parle français, on parle tout le temps français.
Oui, ouais. Tout le temps français. Mais on ne peut pas parler les néerlandais.
Sinon, les parents se fâchent.
Oui.
Pourquoi, selon vous, ils se fâchent?
Parce que on parle de plus en plus les néerlandais et le français disparaît un peu. Donc oui, pour ça qu'ils nous obligent de parler en français.
Est-ce qu'il y a des inconvénients à être francophone à Gand? Est-ce qu'on est parfois un peu montré du doigt? Est-ce que parfois on dit « Ah, c'est une francophone, c'est une Wallonne ?»
J'essaie de garder ça parfois discrètement. Quand je marche en ville, par exemple dans un magasin, j'essaie de toujours parler néerlandais avec ma maman, par exemple. Quand j'achète quelque chose à la caisse, parce que allez, c'est possible qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment pour les francophones. Oui.
Pour vivre heureux, vivre caché, c'est un peu ça?
Oui, oui, oui.
Allez, on va les rattraper alors.
Okay.
Comme une vieille ville de Flandre existait depuis longtemps. Une troupe qu'il faut comprendre.
Par exemple, ils parlent trop en néerlandais. Un petit week-end ou grand camp, on a fait la vaisselle ou des autres tâches.
Ah oui, donc c'est vraiment une règle formelle. Hein.
Une règle formelle de parler en français dans la troupe.
Pas d'excuses.
Non.
C'est quoi la vraie motivation?
Plutôt une tradition. On n'est pas parti de l'idée que c'est un exercice. Simplement, c'est la règle, point.
5e CP!
Hérisson!
En maillot blanc!
Ouais!
Super chouette!
Baleine, ça fout la paix!
Je pense que tant que les chefs sont motivés d'aussi le faire en français, ça restera. Il n'y a rien qui va nous empêcher, non plus pas le VVKSM.
C'est la fédération, donc.
Fédération, et ce n'est pas eux qui vont nous dire à partir de maintenant, vous parlez en néerlandais. Eux, on s'en fout, quoi, je veux dire. La troupe existe depuis très longtemps, donc c'est vraiment une tradition qui continue et qui restera.
Attention, voie 5, le train ici à destination de Anvers Central de 18h.
Le recensement linguistique n'est pas autorisé en Belgique. Impossible de dire avec précision combien de francophones vivent en Flandre. Un chiffre circule toutefois, il serait 300 000, soit 5% de la population de Flandre. À Anvers, le poumon économique flamand, certains quartiers sont encore en partie francophones.
Ben voilà, donc ici on est mercredi après-midi, donc c'est l'après-midi tous les entraînements. Donc ça commence à 1h de l'après-midi, les plus jeunes, et ça se terminera ce soir avec les plus âgés. Le Berscott est un des plus vieux clubs de tennis de hockey de Belgique, qui date des débuts des années 1900. Nous avons aujourd'hui un peu au-delà de 1000 membres. Il y en a probablement, 60 ou 70% qui sont des non-francophones. Quoi.
Et donc, l'obligation d'être francophone pour s'affilier ici, c'est terminé depuis longtemps.
Ça, c'est complètement fini.
Mais ça a existé.
Or, ça existait il y a l'époque de nos grands-parents, peut-être, oui.
Vous souffrez, personnellement, dans votre vie quotidienne, de cette image, de cette ancienne image des francophones, un peu arrogant, d'une élite un peu distante à l'égard du restant de la population flamande?
Mais arrogant, oui, bon, ben ça, on va faire un débat sur je dirais, le... c'est vrai qu'à une certaine époque, quand on prend les affaires en Verse en 1960, il y avait pas mal d'affaires qui étaient dirigées par des francophones. Est-ce que ça nous rendait arrogants? Peut-être, ça, j'en sais rien. Mais bon, les choses ont tellement changé. C'est vrai qu'il y a une époque où nos grands-parents ou arrière-grands-parents avaient difficulté à parler en irlandais. Ça, je peux très bien comprendre que pour un irlandophone, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais ça, je crois que c'est terminé depuis une belle durée de ça.
Pardon, je suis un peu intrigué parce que je vous entends une phrase en français, une phrase en flamand.
Non, mais ça, c'est on le fait.
On est flamand, mais on parle français. Nos parents vivaient comme ça, on parlait français à la maison, en irlandais à l'école.
Vous dites, vous parlez français à la maison, les enfants parlent français, vous parlez français avec les enfants.
On essaye, pour pas qu'ils mélangent trop les deux langues, d'éduquer en français à la maison, en irlandais à l'école. Au sport, c'est les deux, les équipes sont mixtes. L'équipe de hockey est mixte, il y a du flamand et du français, il y a même de l'anglais.
J'ai parfois un peu l'impression de subir l'image ancienne de cette élite bourgeoise francophone qui était un peu arrogante en Flandre jusqu'il y a quelques dizaines d'années.
Non, je ne crois pas qu'on a ce problème. Plus. Il y a peut-être encore des gens qui vivent ça comme ça, mais nous, non.
Vous diriez aussi, je suis flamande?
Oui, j'ai toujours habité en Flandre, donc oui, je suis flamande. Mais j'irais dire aussi que je suis belge.
Et quand du côté wallon ou bruxellois, on a l'impression, notamment qu'avec la montée de la NVA, l'élection de Bart De Wever à la ville d'Anvers, les francophones sont menacés ici à Anvers. C'est aussi votre impression?
Menacés, c'est un grand mot, je crois.
Il y en a parfois qui font des remarques parce qu'on parle le français et qui font des remarques qu'il n'y a qu'une flamme, c'est des trucs comme ça. Ça vient, hein?
Franskion.
Franskion.
Le terme Franskion existe encore et parfois encore utilisé par les Flamands pour dénoncer les francophones d'Anvers ou de Flandre.
Mais ça, je suis sûre, oui.
Périodique.
Pas ici, hein, mais ça arrive encore.
Le Berscott est un club qui a la réputation d'être un club très francophone. C'est aussi pour ça que vous y avez mis vos enfants ou bien ça n'a pas compté?
Pas parce que c'est un club francophone, juste parce qu'on aime bien le milieu dans lequel on évolue. Mais il y a des équipes où il y a des enfants qui parlent néerlandais, français, anglais.
Moi, je suis néerlandophone et je mets mes enfants ici parce que je trouve ça très chouette qu'ils apprennent les deux langues. C'est ça qui est important, le futur de mes enfants, pas de tout le passé, tout ce qu'on parle, le négativisme et tout. Je ne suis vraiment pas la seule à penser comme ça.
On dit que vous êtes plus des Flamands francophones que des francophones en Flandre, c'est vrai?
Je crois que c'est bien formulé comme ça, oui. Je me sens flamand, tout étant francophone.
Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir?
Non. Pourquoi le serais-je? Non, pas du tout. Pas du tout, à cause de notre nouveau bourgmestre peut-être, non. Non.
On dit que même certains francophones de Flandre, certains flamands francophones, ont voté NVA sans complexe.
J'en connais. Personnellement, je n'ai pas voté NVA, d'abord pour clarifier cela, mais la partie linguistique dans leur programme est une petite partie. Il y a pas mal de points dans leur programme que j'ai lus, dans lesquels je peux me retrouver, et d'autres pas, parce que je suis avant tout belge, ça je tiens aussi à le préciser. Il faut savoir que M. De Wever parle parfaitement le français aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Bart De Wever, nouveau bourgmestre nationaliste flamand d'Anvers, personnage charismatique, adoré par les uns, détesté par les autres, c'est aussi l'un des personnages clés du spectacle « Sois belge et tais-toi », une revue politique satirique à succès, jouée pour la première fois à Anvers.
Quand on a annoncé qu'on venait à Anvers, on a eu une seule question. Est-ce que Bart De Wever sera là? Esprit, es-tu là?
Vous êtes d'Anvers?
Oui.
Oui. Alors un spectacle en français à Anvers, il y a longtemps que ce n'était plus arrivé?
Certainement dans un théâtre à Anvers. On a dit, oh, c'est à Anvers, ok, on y va en tout cas, c'est en français et on en profite.
Nous habitons ici depuis 70 ans.
Ici en tant que membre d'un cercle francophone, littéraire, artistique et business.
Et ça existe depuis plus de 100 ans, en français.
Mais bon, ce sont des groupes bien francophones et bon, il y a tout un petit cercle
qui existe toujours.
Les francophones, quand ils sont entre eux, se parlent en français, on en a rencontré plein. Mais dans la vie, ils se diluent dans le public.
Ils sont parfaitement bilingues.
Pas ça, pas ça, en Flandre, on ne veut pas ça. Aïe, et on sait trop, aïe, que nous fait-il beau.
D'abord, je suis flamand, mais flamand francophone, le dernier des Mohicans peut-être, une race en voie d'extinction. Mes racines sont de cette région-ci. Et ce n'est pas parce qu'à une époque, notre famille a versé dans la culture francophone que pour autant nous renions les origines du terroir flamand.
Mais les Flamands, certains Flamands du moins, continuent à dénoncer les Francs-Quillons, oui. À dénoncer une certaine arrogance de certains francophones.
Ceux qui ne veulent pas s'inculturer dans cette région, et je les comprends et je leur donne raison.
Mais ça a tout à fait changé.
Tout à fait changé ou bien il reste un peu le souvenir, la trace de cette époque où les francophones représentaient l'élite à Anvers.
Le cœur de certains Flamands, ce qui n'est plus du tout le cas. Parce que malgré tout, il y a beaucoup d'argent en Flandre et ils ont maintenant tous les postes clés, mais ils n'ont pas toujours l'éducation.
Ils ont l'argent et alors l'éducation suit, bien sûr.
Usage des langues. Le bon flamand parle le
français.
Peut-être, mais j'ajouterais que de son côté, le flamand, lui, ne sait pas sentir le wallon. Chapitre institutionnel. Le bon flamand exige une réforme de l'État.
Vous l'avez.
Nous l'avons. Le bon flamand est demandeur de tout.
Alles voor Vlaanderen.
Alors que de son côté, le wallon, lui, n'est demandeur de rien. Il est déjà très content avec tout ce qu'on lui donne.
Baudouin Remy, comédien, mais aussi journaliste politique et auteur du spectacle.
Je crois qu'il y a plusieurs types de publics. D'abord, il y a les néerlandophones d'Anvers qui, par curiosité, par bouche à oreille, sont venus voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouverture d'esprit, je dirais. Il y a aussi un public des francophones d'Anvers qui a la possibilité d'aller voir là-bas ce qu'ils ne vont pas voir à Bruxelles ou dans d'autres villes. Et puis, il y a des francophones qui viennent d'ailleurs pour voir comment l'autre public va réagir à un spectacle qu'ils ont déjà vu dans une autre ville. Les publics francophones et néerlandophones rient à peu près pour la même chose, mais sans doute pas pour la même raison.
C'est moi par qui a fait boum. Pour un boum, c'est un boum. Tout le pays va faire boum.
En route pour Charleroi, de l'autre côté de la frontière linguistique, la plus grosse ville de Wallonie. Charleroi et son passé industriel florissant. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le charbon a fait sa richesse. Les mines attiraient des travailleurs étrangers, mais aussi flamands. C'est le cas du bois du Casier. Le site abrite maintenant un musée.
Voilà, donc on va peut-être vous rapprocher parce qu'on est quand même un gros groupe. Il se fait qu'on traite de plus en plus au bois du Casier l'histoire de l'immigration. Et c'est vrai que cette histoire de la Belgique, elle n'est pas toujours très connue, de l'émigration des Belges. Et plus particulièrement dans le cadre de cette exposition, l'émigration des Flamands.
Guido Fontaine, journaliste et écrivain flamand.
Au début du 19e siècle, il y a eu une période de famine en Flandre dans les années 20-30, surtout les années entre 1840 et 1850, pour décrire la situation de quelqu'un qui va mourir de faim. Dans le monde civilisé, de l'époque, on appelait ça le mal des Flandres. Donc la Flandre était vraiment, vraiment dans un état terrible. Et c'est parce qu'il y avait tellement de misère en Flandre, littéralement, que des centaines de milliers de Flamands, des centaines de milliers, probablement près d'un million, peut-être plus, ont fait le trajet. On parle d'une période de 1800 jusqu'à 1950, hein, donc c'est une très longue période, un siècle et demi. Les Wallons ne parlaient même pas français. Hein, les Wallons... Au niveau des ouvriers, parlaient leur dialecte wallon et les Flamands parlaient leur dialecte flamand. Il y avait une couche supérieure qui, en Flandre et en Wallonie, surtout à Bruxelles, qui dirigeait le tout et qui, lui, parlait français.
500 000 Flamands ont fui leur destin et commencé une nouvelle vie en Wallonie.
La plupart est restée, mais l'intégration des Flamands en Wallonie n'a pas été sans heurts ou sans problème et de toute façon a pris deux ou trois générations. C'est une leurre de croire que les Flamands se sont intégrés tout de suite et complètement.
Beaucoup de traces aujourd'hui subsistent, notamment dans les appellations, dans les noms de personnes.
Il est vrai que quand on regarde à Liège, il y a Dardenne, il y a Reinders, il y a Onkelings, il y a Wekols, il y a De Bayer. etc., etc. Donc,
mais malgré tout, ces Flamands venus travailler en Wallonie, enfin dans ce qui est aujourd'hui la Wallonie, ils auraient pu, en fin de carrière, ou bien une fois que la situation économique s'est améliorée en Flandre et s'est détériorée en Wallonie, ils auraient pu rentrer en Flandre. Et pourquoi la plupart a décidé de s'installer ici, finalement, de rester définitivement émigrés?
Parce qu'ils s'y trouvaient bien, à leur aise, je crois. Il y a peut-être un élément dont on ne parle pas très souvent, c'est que beaucoup de Flamands qui ont quitté la Flandre de l'époque, qui est une Flandre très, très, très fermée, très contrôlée par l'Église, d'une façon presque médiévale, se sont retrouvés ici dans un paysage, dans des villes et des villages, où l'esprit de vivre était beaucoup plus ouvert qu'en Flandre. Je crois que ça a joué un rôle.
Aujourd'hui encore, des Flamands s'installent en Wallonie, direction Namur, capitale de la région wallonne.
Ça fait maintenant 25 ans, plus que 25 ans que je suis installée en Wallonie.
Denise Van Damme, chargée de cours à l'université de Namur.
Et je garde de très bons contacts en Flandre. Mes parents habitent là, mon frère et sœur, j'ai plein d'amis en Flandre, donc je vis très très souvent encore en Flandre. Mais j'ai vraiment choisi librement de vivre en Wallonie. Donc, ce n'est pas par contrainte ou par mariage. Mon mari est wallon, mais c'est vraiment par choix parce que je me sens vraiment bien en Wallonie.
Vous sentez bien en Wallonie. Est-ce que vous vous sentez wallonne?
Non, je me sens toujours flamande parce que je pense qu'il y a des liens. Je ne vais pas dire les liens du sang parce que c'est une connotation un peu que je n'aime pas. Je me sens toujours flamande, mais je ne voudrais plus vivre en Flandre. J'ai adopté la Wallonie. En tout cas, chez moi, ce qui a été prépondérant aussi dans mon choix de vivre, de venir en Wallonie et de rester en Wallonie, c'est bien sûr toute la question culturelle, la beauté de la nature et tout, mais c'est aussi le fait de politiquement se sentir mieux dans sa peau en Wallonie qu'en Flandre. Je pense que c'est possible que des Flamands qui aspirent à une liberté politique un peu plus grande, un moindre ancrage dans un nationalisme qui est devenu tellement fort et tellement articulé à un projet de société de droite, que ces Flamands-là, à terme, se sentiront mieux en Wallonie. Et oui, je pense que c'est possible.
Namur est une ville universitaire. Elle a son association d'étudiants flamands.
Bonjour.
Bonjour. Qui est Geoffroy de Skeymac?
C'est moi. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Pierre.
Enchanté.
Bonjour.
Bonjour, William.
Enchanté.
Monsieur Arnaud.
Maxime.
Et Maxime.
Bonjour. Christian.
Pierre.
Enchanté.
Tant, asseyez-vous.
Bonjour. La Brabo, c'est l'association des étudiants néerlandophones. Le projet de base, c'est déjà de rassembler tous les néerlandophones de Namur entre nous. On est une petite régionale, entre guillemets, parce qu'on n'est pas nombreux par rapport aux autres. Mais maintenant, ouais, il y a des dîners entre nous, on fait un paintball, on fait des petites activités pour se revoir de temps en temps, de se retrouver en tant que néerlandophone, mais aussi d'aller voir et de s'intégrer plus par rapport aux autres et de s'ouvrir un peu par rapport à tous les autres. Quoi. Mais,
Et dans ces événements, honnêtement, vous parlez français ou flamand?
On parle un maximum français. Entre nous, ça arrive qu'on parle néerlandais, mais qu'on organise une activité, c'est toujours en français qu'on le fait. Quoi.
Quand on dit intégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter par les francophones, c'est
ouais,
tout?
Ouais, au début, je pensais ouais, ça va être difficile de m'adapter à la française, à les manières wallonienne. C'est pas si différent que chez nous, mais ce sont des petites choses comme faire des bisous à des hommes. Ok, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment... Allez.
Au début, c'était un peu bizarre, mais maintenant, c'est
culturel, en fait.
Oui, c'est vraiment... je me trouve dans une autre culture, en fait.
Est-ce que vous imagineriez rester, passer votre vie en Wallonie?
Pour moi, non, parce que toute ma famille habite à Flandre. Et j'ai vécu presque toute ma vie là, au Flandre. J'ai ma base là. J'ai pas envie de l'abandonner, tu vois.
Il n'y a pas de préjugés du côté flamand sur les étudiants qui choisissent de venir en Wallonie?
Non, jamais entendu, moi. Non, rien du tout. Non. Ce qui est aussi remarquable, c'est que quand je viens à Namur, il y a tous mes cocoteurs qui disent « Ah, voilà, flamouche, flamand, comment ça va? T'as passé un bon week-end ?» Et si je repars le vendredi de Namur à Flandre, il y a tous mes copains qui disent « Hey, wallon, ça va ?» Alors je suis là nulle part, en fait. Ici, je suis le flamand et à Flandre, je suis le wallon.
Neuf, le train IC à destination de Bruxelles midi débarque 15h21, arrivera dans quelques instants au Voie 9.
En vertu des lois linguistiques, Bruxelles, la capitale belge, dispose d'un statut bilingue. Dimanche, jour de marché à Jette, dans le nord de la ville.
Goedendag.
Woont u hier in de buurt?
Ja.
Ja? En spreekt u zowel Frans als Nederlands?
Ja, dans mon plan in het Frans. Ik spreek nooit in Frans.
Vous parlez français alors?
Ja. J'aime bien ici. Je parle français, je parle pas flamand.
Oui.
Alors, moi je suis beaucoup au café, il y a beaucoup qui parlent français et flamand ici. Mm-hmm. Oui, oui. Oui, oui.
Vous venez souvent ici sur le marché?
Tous les dimanches. J'habite en face de toute façon, ouais. C'est un des marchés que je préfère. Ouais.
Et pourquoi?
De tous les marchés, c'est le meilleur.
Ce qui est amusant, c'est qu'on parle aussi bien français que flamand sur le marché, ouais. Ici.
Non. On parle uniquement belge.
On fait pas la distinction du néerlandais et du français, effectivement.
Vous voulez rien boire?
Une fois que t'as goûté, tu peux se parler.
13 à 9
Ce Bruxelles-là existe. Bilingue, populaire, bon vivant. Une image d'Épinal. À entendre les néerlandophones qui viennent s'y installer, les Bruxellois ne se montrent pas toujours aussi bilingues. Petit détour par la rue Antoine Dansart, en plein centre-ville. Quartier branché et flamand, dit-on.
Je viens de Courtrai, mais j'habite depuis 3 ans à Bruxelles. Je fais des études de cinéma ici.
C'est facile de vivre ici comme néerlandophone?
En soi, c'est facile, mais la majorité de la population parle le français ici. Il y en a énormément qui ne font aucun effort pour parler le néerlandais. Ça me frappe souvent que dans les restaurants et les cafés, on ne nous parle pas en néerlandais. Mais on se débrouille, évidemment. Je parle bien sûr le français, mais parfois, par principe, je ne le parle pas, si je vois qu'il n'y a pas de volonté de me parler en néerlandais.
Et l'ambiance à Bruxelles, vous en pensez quoi?
Je suis un fan de la ville, mais je n'adore pas vivre ici. Je ne me sens pas spécialement à l'aise. L'ambiance générale n'est pas très conviviale, je trouve. La ville ne m'accueille pas vraiment, c'est un sentiment personnel naturellement, mais je me sens quand même mieux dans beaucoup d'autres villes belges qu'à Bruxelles.
Il y a un rapport avec votre langue?
Il y a certainement un rapport. La langue, c'est par les gens en grands groupes, et si on fait partie d'un groupe, on est automatiquement perçu d'une certaine manière. On ne peut pas accuser un camp ou l'autre, mais évidemment, il y a un rapport avec la langue.
Je viens à Bruxelles pour le travail et puis je repars le soir à la maison, donc je ne sors pas beaucoup.
Peu de contacts alors?
Oui, j'ai peu de contacts. Je parle en néerlandais. Parfois on me répond en néerlandais, parfois en français.
Ça vous surprend qu'on parle si peu le néerlandais à Bruxelles?
En fait, oui.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que, comme on attend de notre part qu'on parle le français et le néerlandais, il faut que ce soit pareil dans l'autre sens. Si on parle en néerlandais, il faut une réponse en néerlandais.
Welke taal spreekt u, mevrouw?
Oh, welke taal? Frans. Ik ben francophone. Niet meer.
Mais vous vous adressez ici aux clients en néerlandais?
Ah, ja, altijd. Toujours.
Votre clientèle est majoritairement néerlandophone?
Majoritairement, oui. Mais ça va, ils se débrouillent en français, on est à Bruxelles, hein. Donc c'est bilingue. Donc il n'y a pas de souci.
Demander une bière, c'est pas compliqué.
Bière, brood, allez, soupe, warm eaten, cold scotels, voilà.
Et vous parlez d'autres langues que le français et le néerlandais?
L'arabe, je me débrouille un peu en anglais. Can I help you? Sometimes you drink hot, fresh, voilà.
Vous habitez à Bruxelles?
Oui, à Molenbeek.
Et votre langue maternelle?
C'est l'arabe.
C'est De plus en plus de langues se côtoient dans les rues de la capitale de l'Europe. Pendant plusieurs années, un collectif s'est intéressé à ce mélange. Ils ont écouté les habitants d'un quartier multiculturel de Bruxelles, à Schaarbeek, la cage aux ours. Le travail de Peter Westenberg et Clémentine Delahaut a abouti à une collection de mots hybrides nés dans ce quartier.
Parfois, dans la rue, tu entends des croisements des langues qui sont hyper intéressants. Et c'est vrai que l'anglais, par exemple, ça devient de plus en plus important ici.
Mais moi, je ne l'entends pas dans la rue. Si je prends le bus d'ici pour aller dans le centre-ville, je vais entendre des femmes qui vont mixer, mais réellement, le lingala, par exemple, et le français. C'est un mot en lingala, deux mots en français, et ça, je l'entends de manière très courante à Bruxelles.
Les langues ont donc tendance à s'influencer ici à Bruxelles ?
Oui, c'est surtout les jeunes en fait qui vont plus facilement utiliser plusieurs langues et vraiment les mélanger quoi, et même inventer des nouveaux mots en mélangeant l'arabe et l'anglais par exemple. Les enfants sont nés là, ils ont appris le français à l'école, ils ont une culture belge européenne, mais ils ont aussi des racines qui sont encore présentes aujourd'hui et qui font leur richesse.
Et tout ça se ressent dans leur vocabulaire, dans leur façon de parler ?
Ben oui, parce que par exemple, ces enfants dont les parents parlent le darija, c'est un dialecte marocain, ou l'arabe classique, c'est une langue quand même pas évidente, ils ne vont pas savoir l'écrire, et ils ne vont pas savoir conjuguer, par exemple, en arabe. Donc quand ils parlent, ils mélangent l'arabe et le français, ils vont conjuguer les verbes en arabe en français. Alors on avait un exemple, je crois que c'est hayar, ça veut dire exagéré, bon je ne le prononce pas bien, mais hayar, ils ne savent pas le conjuguer, donc ils disent je hayar, tu hayar, il hayar et nous hayarons, et voilà, ils le conjuguent en français en fait.
Et ça c'est une spécificité de Bruxelles, ou c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres grandes métropoles, dans d'autres villes où se côtoient différentes nationalités, ou le fait que Bruxelles ait toujours été un carrefour entre langues germaniques et langues latines fait qu'on mélange plus facilement les choses.
Bah, je ne suis pas historienne, je ne sais pas trop. Moi, j'ai vécu à Paris, à Arles, en France, et ça ne m'a jamais frappé autant qu'à Bruxelles.
Oui, tu dis déjà. Hein. Donc, la grande place, c'est la connexion entre Cologne et Londres. Quoi. C'est la connexion entre Amsterdam et Paris. C'est important pour Bruxelles d'avoir connaissance de plusieurs langues parlées en Europe. Quoi. Depuis longtemps. Et ça reste encore actuel. Et comme Clémentine dit, maintenant, il y a aussi d'autres influences qui viennent.
Il y avait un mot comme ça qu'on a récolté, c'est tagine lougat. Et alors, il y a quelqu'un qui nous explique que tagine lougat, en fait, ça veut dire littéralement tagine des langues. Et elle nous a fait entendre un morceau qui a été joué par un groupe qui s'appelle Fnaïr, qui vient de Marrakech, et qui a intitulé son morceau Tagine Lougat. Et Tagine Lougat parle du fait que dans une langue, on va utiliser plusieurs mots de différentes langues qui veulent dire différentes choses et que chacun comprend comme il veut. Donc voilà.
c'est comme ça que vous définiriez la langue qui est parlée dans certains quartiers ?
Ouais, c'est ça, c'est un mix surréaliste complet, quoi.
Dans cette joyeuse tour de Babel, difficile de dire qui parle quoi à Bruxelles. Une chose est certaine, le paysage linguistique bruxellois se diversifie, mais quelle place occupent encore le français et le néerlandais ? Pour nous éclairer, nous rencontrons le philosophe Philippe Van Parijs dans un café du quartier européen.
Schumann, correspondance chemin de fer. Aansluiting spoorweg. Railway connection.
Le français est bien ancré à Bruxelles et le restera, mais c'est vrai que dès le moment où on laisse se côtoyer librement plusieurs langues, dont certaines sont plus fortes que d'autres, il y a une tendance graduelle à l'éviction de la langue la plus faible. C'est ce qui s'est passé à travers toute la Belgique au détriment du néerlandais tant qu'il n'y avait pas de règles territoriale. Il est clair qu'aujourd'hui, l'anglais est une langue beaucoup plus forte que le français et que sur le territoire bruxellois, il sera tôt ou tard important de reconnaître à l'anglais un statut officiel au niveau de la communication publique, au niveau de sa place dans l'enseignement. Et de ce fait, l'anglais va, à mes yeux, inévitablement se substituer graduellement au français comme lingua franca, c'est-à-dire comme langue que parlent entre eux des personnes qui n'ont pas la même langue maternelle. Ça se passe d'ailleurs déjà de plus en plus entre jeunes Belges, francophones ou néerlandophones, qui parviennent à communiquer le plus facilement en anglais les uns avec les autres. Donc c'est en cours et il y a des micro-mécanismes qui rendent ce phénomène inéluctable. La situation à Bruxelles est complexe. Il y a environ une soixantaine, 55-60% de la population qui a le français et le français seulement comme langue maternelle. Et c'est assez stable de génération en génération. Ce n'est pas stable du tout pour le néerlandais, ceux qui ont le néerlandais comme leur langue maternelle ou une de leurs langues maternelles va jusqu'à un quart de la population pour les plus de 65 ans. Mais pour les plus jeunes, on tombe bien en deçà des 10%. On est déjà de l'ordre de 5% de la population, bien en dessous de l'arabe, en dessous du turc. D'autres langues sont plus fréquentes parmi les jeunes bruxellois que le néerlandais au titre de langue maternelle. Mais alors, si on regarde la compétence linguistique, ben on voit que si un francophone, c'est quelqu'un qui est capable de parler relativement bien le français, environ 95% de la population bruxelloise est francophone, y compris quasi tous les flamands de Bruxelles. Combien y a-t-il alors de néerlandophones à Bruxelles en ce sens-là ? Ben, environ un tiers de la population est néerlandophone, donc des gens qui sont capables de parler suffisamment, enfin de tenir une conversation en néerlandais, donc un petit tiers, c'est moins que pour l'anglais, donc le néerlandais dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale n'est que la troisième langue et pas la deuxième. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on a deux phénomènes simultanés, c'est qu'il y a une décroissance vraiment très rapide de la proportion de flamands à Bruxelles, donc de Belges qui ont le néerlandais comme langue maternelle. Il y en a vraiment de moins en moins, on est donc bien en dessous des 10% pour les plus jeunes. Mais cela va de pair avec une augmentation constante de la proportion de Bruxellois qui ont appris le néerlandais comme seconde langue et sont capables de bien la parler.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
Aucune ville au monde ne créerait autant de néerlandophones que Bruxelles. Et c'est vrai que les écoles néerlandophones de Bruxelles sont fréquentées majoritairement par des enfants dont le néerlandais n'est pas la langue maternelle. Un phénomène lié à la saturation de l'enseignement francophone, mais aussi à la volonté d'apprendre le néerlandais pour l'avenir. Cette association néerlandophone aide les immigrés de première génération à s'intégrer à Bruxelles, ce que la Flandre appelle l'inburgering, le parcours d'intégration citoyenne, un parcours volontaire qui passe aussi par des cours de néerlandais.
Je suis Eric De Jong, je suis le directeur de Bonn. Notre organisation s'est toujours fixée sur le but de donner des bonnes informations générales, ce que nous on appelle maatschappelijke oriëntatie, orientation civique ou sociale, dans une langue que les gens connaissent. Donc on a ce programme-là dans une quinzaine de langues, et en toute honnêteté, pour 40% des gens qui suivent ça, c'est en français. Et donc l'apprentissage du néerlandais est pour nous en deuxième lieu. Il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, quittent aussi le programme. Hein, parce que l'apprentissage du néerlandais n'est pas facile, surtout vu le fait qu'à Bruxelles, on parle peu de néerlandais. La grande motivation pour les gens à apprendre le néerlandais, c'est une motivation économique. Et alors, il y en a aussi beaucoup qui pensent que en apprenant le néerlandais, je peux m'installer en Flandre par après ou peut-être ce sera plus facile de trouver un job pour eux.
Est-ce qu'il y a aussi la volonté politique derrière votre programme d'avoir plus de néerlandophones à Bruxelles ?
Moi, je ne suis pas politicien. Donc là, je ne peux pas m'en exprimer. Je crois que...
Mais est-ce que c'est la volonté de la communauté flamande, par exemple ?
Je crois que vous touchez une réalité qui est là, mais... En tant que Bruxellois, en tant que bilingue, moi, ce programme-ci, c'est surtout pour pousser aussi le bilinguisme. Je suis fier d'être néerlandophone, mais je suis bruxellois. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là-dedans, apprendre le néerlandais est un atout et ce n'est pas la cible unique. Hein. Peut-être que Il y a des politiciens flamands qui n'osent pas l'exprimer, et qui pensent, mais ici, je peux vous garantir, on ne veut pas créer des flamands, là, c'est clair.
Je m'appelle Feriane Kasbi, je suis tunisienne. Je suis là depuis le mois de janvier, début janvier, je crois.
Vous maîtrisez parfaitement le français. Pourquoi était-il important pour vous d'apprendre aussi le néerlandais ?
En fait, c'est à cause des demandes du travail. Parce que tout, pratiquement, les intérims, tout, ils demandent bilingue, bilingue, bilingue.
C'est un peu le même sentiment que vous avez, madame ?
C'est un peu le même sentiment, puisque ici, si on ne peut rien faire si on n'essaie pas causer le français et le néerlandais. Concernant le côté logement, c'est un peu difficile de se trouver un logement à Bruxelles. On aimerait vivre en Flandre, et pour vivre en Flandre, il faut causer le néerlandais. Être intégré avant d'aller vivre là-bas.
La Flandre attire, Bruxelles déborde. Or, la capitale est entourée par la Flandre. Rien ne la relie à la Wallonie. Celui qui veut quitter Bruxelles tout en restant à proximité de la capitale va bien souvent habiter en Flandre, quelle que soit sa langue maternelle. C'est ce que certains flamands appellent la tache d'huile, une francisation de la périphérie flamande de Bruxelles, à l'œuvre depuis plus de 50 ans. Tervuren en Flandre, 20 minutes de tram pour rejoindre Bruxelles. Dans cette école néerlandophone, les inscriptions en première année secondaire sont ouvertes depuis hier. Les parents font la queue, certains dorment même sur place pour obtenir une inscription dans cette école néerlandophone convoitée. Parmi ces parents, des francophones.
Donc je veux inscrire ma fille au Leekers College et je suis là depuis mercredi matin, donc hier matin, depuis 7h du matin. Nous avons reçu un numéro en fait. Et il faut une personne physique présente sur place par numéro, sinon ce n'est plus valable.
Donc le système en Flandre pour les inscriptions, c'est toujours premier arrivé, premier servi.
Premier arrivé, premier servi, effectivement.
Il y a beaucoup de francophones qui font la file ici.
Question délicate.
Pourquoi ?
Oui, il y a pas mal de francophones parce qu'ils veulent donner leur chance à leur enfant d'avoir un bon niveau de néerlandais.
Voilà. Vous habitez depuis longtemps en périphérie ?
J'habite depuis quelques années en périphérie, depuis 5 ans maintenant.
Et pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en périphérie ? Il y avait un choix particulier ?
Oui, on est un petit peu plus ouvert et on a la facilité de rejoindre Bruxelles assez facilement.
Vous êtes francophone ?
Je suis francophone mais d'origine italienne. Je vis en Belgique depuis 17 ans.
Vous travaillez à Bruxelles ?
Je travaille à Bruxelles.
Et pourquoi avez-vous fait le choix de venir vivre en périphérie ?
Pour les enfants. On voulait avoir une maison dans un quartier sympa et avec un jardin. C'est le choix que toutes les familles belges font.
Pourquoi était-il important que votre enfant soit inscrit en néerlandais ici dans cette école ?
C'est un choix qu'on a fait en famille. Ma compagne est néerlandophone, donc on a décidé de les inscrire dans une école néerlandophone.
Alors, vous habitez ici depuis 17 ans, mais vous avez peut-être quand même un regard un peu extérieur par rapport à la situation belge.
Je suis assez surpris. L'aspect linguistique est un débat qui est très ressenti ici. Je ne comprends pas encore. C'est quelque chose qui va au-delà de ma compréhension. Vous êtes un peuple de personnes sympathiques, internationales dans leur esprit. Je vous vois partout, vous vous adaptez à toute situation.
Et donc, ça vous étonne que certaines personnes ne s'adaptent pas en périphérie ?
Ça m'étonne. Moi, personnellement, ça m'étonne encore, oui, tout à fait.
C'est un manque de flexibilité de part et d'autre.
Flexibilité de la part des différentes communautés, oui, tout à fait. Ma perception, c'est que les choses sont en train de se durcir. Et c'est une sensation que je perçois avec des discussions de représentants des deux communautés.
Et ici, par exemple, tous les francophones sont réunis.
Mais c'est bien, je trouve que c'est bien. Hein. Vous voyez beaucoup de parents francophones ici qui ont décidé que leurs enfants soient parfaitement bilingues.
Oui, mais en attendant, ils ne dialoguent pas avec les néerlandophones, ils sont restés entre eux.
Ah, mais ça c'est votre problème, c'est plus le mien.
Christophe Emmelings, président de la section locale de la NVA à Rooik, à 10 km de Bruxelles en Flandre.
À Rooik ça commence, mais certainement dans les autres communes dans les alentours, Lennex, Sint-Pietersleeuw, ça va vite là-bas, ici ça commence.
Quand vous dites ça commence, vous voulez dire qu'il y a de plus en plus de francophones qui arrivent, qui s'installent ici ?
Sont beaucoup de gens qui sortent de Bruxelles et qui veulent trouver un futur ici. Oui, ça c'est le cas. Et ce n'est pas toujours des francophones, ce sont des gens qui parlent notre langue. Le plus grand problème pour nous, c'est qu'ils ne sont pas membres de notre commune, notre société, parce qu'ils ne participent pas à la société. Aucun problème qu'on parle notre langue à la maison, c'est privé. Nous n'avons rien à dire là-bas. Mais quand on peut participer à la société, nous avons un problème parce que les gens sont dehors de la société à ce moment.
Ce n'est donc pas tant le caractère flamand de la commune que vous défendez que sa qualité de vie.
L'un est lié à l'autre.
Vous avez peur pour le néerlandais ici? Vous avez peur que ça disparaisse?
Quand je vois les choses qui se passent à Sint-Genesius-Rood, à Sint-Pietersleeuw, oui, j'ai peur pour mes enfants, pas pour moi, mais pour mes enfants. Mais je pense que nous avons encore le temps, pas de changer les choses, parce que ce n'est pas quelque chose contre un autre, mais de donner la possibilité aux nouveaux gens de s'intégrer dans la société qui existe maintenant. Je pense que nous avons encore le choix. Ce n'est pas contre quelque chose, mais c'est pour quelque chose. Nous sommes fiers d'être flamands, oui.
Cette défense du caractère flamand de la périphérie bruxelloise s'oppose fréquemment à la défense du droit des francophones. Christian Van Eyken est le seul élu francophone au Parlement flamand.
Il y a bien entendu toute une concentration des francophones dans la périphérie bruxelloise et dans ce qu'on peut appeler la province du Brabant. C'est une situation logique. C'est l'extension d'une métropole, comme vous avez dans toutes les métropoles européennes et du monde. Bruxelles dépasse de loin le carcan des 19 communes. Il y a quand même une tendance assez marquée que ces francophones sont d'accord de parler néerlandais. Ils l'apprennent à l'école, de parler néerlandais avec les administrations, de faire l'effort. Mais ce que l'on refuse en tant que francophone, c'est qu'on ne puisse pas vivre notre culture. On ne demande pas que ces communes deviennent francophones, mais que l'on soit respecté. Au moins les francophones pourraient s'associer, avoir des mouvements de jeunesse qui soient subsidiés, d'avoir des associations culturelles qui soient subsidiées par la communauté française ou par la communauté flamande, peu importe, mais qui soient reconnues et subsidiées. Aujourd'hui, tout ça n'est pas le cas. Vous savez, à Tervuren, à la bibliothèque, il est plus facile de trouver un journal en anglais et en allemand que d'avoir Le Soir ou Le Monde. Pourquoi, vous me diriez-vous? Quand vous voyez que, bon, année après année, toute inscription en français, même dans les communes à facilité, sont badigeonnées par des manifestants flamingants, alors bon, le politique a pris le pain, a dit « Ah ben oui, on va faire éradiquer tout ça ». Aujourd'hui, on veut éradiquer la culture française.
Ce qui est paradoxal dans ce que vous dites là, c'est que, d'une part, vous dites que la culture est menacée, qu'il y a une volonté de l'éradiquer, mais d'un autre côté, le nombre de francophones en Flandre ne diminue pas. En périphérie, il a même tendance à augmenter, dit-on.
Parce que nous sommes des teigneux.
À travers ce voyage aux quatre coins de la Belgique, on le voit, la situation linguistique du pays est complexe. Les identités sont contrastées, les différences culturelles importantes. Les malentendus sont parfois énormes, les points de vue extrêmes, toujours diamétralement opposés. Mais faut-il en déduire que francophones et flamands sont incapables de s'entendre, que la Belgique est vouée au divorce? Plusieurs thèses s'affrontent. Herman De Croo, libéral flamand, doyen de la Chambre.
Il y a à la fois une combinaison d'une augmentation du bien-être, d'une augmentation de la richesse en Flandre, d'un appauvrissement relatif en Wallonie, avec une émancipation linguistique. Il s'est créé en francophonie, avec les francophones de Bruxelles, en Flandre, avec les néerlandophones de Bruxelles, une sorte de ghettoisation, si le mot peut se dire, linguistique, et on s'enferme davantage dans sa propre langue. Moi, je me rends compte.
Vous parlez d'une forme de ghettoisation. On sait que la NVA a fait des scores record aux élections de 2010, qu'elle a gagné les élections communales de 2012 maintenant. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a atteint un point de non-retour en Belgique?
Non, je ne crois pas. Mais enfin, la Belgique, c'est un pays de deux minorités. Hein. Les Flamands sont majoritaires en nombre, 60% à peu près. Et ils se sentent encore un peu coincés aux entournures. Les francophones sont minoritaires, 35-40%, et ils se sentent faire partie d'un monde plus universel, entre guillemets, parce que la langue les unit à la France et à d'autres grands courants linguistiques et philosophiques. Les Flamands exigent de plus en plus être respectés dans leur langue, puisqu'ils la parlent, on l'enseigne, ils ont la puissance économique et commerciale, quoique l'anglais fait, si je puis dire, des ravages positifs dans leur rang, les francophones se sentent un peu plus frileux au moment où cette carcasse unitariste belge se désosse et ils ont peur un peu de ne pas pouvoir résister seuls à la transition. Ben, vous savez, on disait que la Belgique allait durer une dizaine d'années lorsqu'elle fut créée un peu artificiellement en 1830. Elle dure toujours, elle s'adapte, elle a une très grande souplesse. Nous avons l'extraordinaire avantage, et j'en suis relativement heureux, que nos querelles linguistiques, nos querelles communautaires coûtent des citernes de salive et des citernes d'encre, mais il faut encore la première pipette de sang. Hein. Tout finit par s'arranger ici.
Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles pour le quotidien français Libération.
J'ai du mal à imaginer que la Belgique reste unie. Les tensions entre néerlandophones et francophones, loin de s'atténuer, ont tendance au contraire à s'exacerber. Il y a désormais deux espaces politiques qui fonctionnent de façon autonome et qui ne se retrouvent qu'au niveau fédéral, donc à Bruxelles de temps en temps, donc au niveau du Parlement et du gouvernement. Sinon, ce pays est déjà, dans les faits, séparé. Tant que les Flamands penseront que la marque Belgique est plus connue dans le reste du monde que la marque Flandre, ils garderont la Belgique et le fronton belge. La Flandre est d'abord une puissance commerçante et elle ne va pas casser sa marque.
Cette séparation hypothétique, est-ce que ce n'est pas un épouvantail qu'on agite depuis que la Belgique est Belgique ?
Oui, dès le départ de la Belgique, il y avait ces éléments de séparatisme, mais chaque État, même artificiel, a su créer entre ces diverses parties, entre ces diverses populations, ces diverses régions, un sentiment d'appartenance. En Belgique, on a au contraire créé des sentiments de différenciation. Donc je ne vois pas ce qui a été ajouté à la Belgique depuis sa création. Je vois beaucoup de moins, 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 moins. Je ne vois pas un seul plus.
Philippe Van Parijs, philosophe.
On ne se rend pas compte aujourd'hui du degré beaucoup plus élevé d'acuité de ce conflit communautaire il y a une cinquantaine d'années. La fixation de la frontière linguistique a eu un effet d'apaisement considérable qui n'est pas suffisamment perçu parce qu'on remarque les petites escarmouches aujourd'hui sans les comparer aux conflits parfois violents qui s'étaient produits dans les années 60 avant cette fixation.
On agite quand même très souvent le spectre de la scission, de l'explosion de la Belgique. Ce ne serait donc qu'une illusion ?
Je ne crois pas un instant à l'explosion de la Belgique, disons avant la fin de ce siècle. Siècle prochain, on pourra en reparler. Pour une raison très simple à formuler, c'est que ni la Flandre ni la Wallonie ne peuvent partir avec Bruxelles, hein, parce qu'il faudrait à tout le moins l'accord de l'autre grande région pour pouvoir le faire. Et ni la Flandre ni la Wallonie ne veulent quitter la Belgique que sans Bruxelles. Mais, si ni la Flandre ni la Wallonie ne veulent abandonner Bruxelles, et si ni la Flandre ni la Wallonie ne peuvent partir avec Bruxelles, les différentes composantes de la Belgique resteront collées ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut maintenir le statu quo, mais qu'il faut continuer à se réformer d'une manière intelligente pour combiner une bonne dose d'autonomie avec une bonne dose de solidarité.
C'était Le Français en Belgique, une chance ou une pomme de discorde. Production Pierre Magos. Réalisation Baptiste Dupin. Pour une série documentaire, Le Français est une chance, réalisée en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et les radios francophones publiques.